Même chose. Effectivement, c'est une politique générale et qui avance doucement, qui avance en rampant. On dit un rouleau compresseur, on a parlé d'un tsunami, oui, mais alors au ralenti, sans qu'on le voie véritablement venir. Alors ça proteste, ça conteste, mais cette contestation est difficile. Et pourtant, qu'est-ce qu'elle dit, cette contestation? Elle dit le profond attachement des Françaises et des Français aux services publics, aux domaines publics, aux biens publics. Et c'est cet attachement qui probablement explique la stratégie mise en place, pas seulement par l'actuel gouvernement et l'actuel président Nicolas Sarkozy, mais depuis déjà d'assez nombreuses années. Je vous laisse la parole, Laurent Bonnelic, pour que vous placiez cette histoire dans un contexte historique.
Oui, alors effectivement, la question derrière cette fermeture, c'est la question de la forme et du format de l'État qui est en question. On est dans un processus assez profond de réforme de l'État. Alors, il y a plusieurs sources à cela, évidemment. Tout ne commence pas avec la RGPP, ni même avec, sans doute plus important que la RGPP, c'est la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, qui a été votée en 2001, il faut le rappeler à l'époque, à l'unanimité parlementaire, exception faite du groupe communiste qui, à l'époque, s'était abstenu. Donc, tout ne date pas du début des années 2000. On est sur un processus très très long sur, finalement, qu'est-ce que ça doit être l'État. Alors, il faut revenir en arrière. Pour cela, il y a un moment de foisonnement, de bouillonnement intellectuel sur la forme contemporaine de notre État, c'est la fin des années 30. La fin des années 30, grosso modo, le libéralisme antérieur, celui du 19e siècle, est discrédité. Il est discrédité parce qu'il y a eu la crise de 29, crise économique déjà, avec des effets sociaux assez dramatiques, et le modèle libéral, en tout cas à l'époque, accusé d'avoir pas su faire face à cette crise, d'avoir pas su en gérer les effets qui produisent la montée du nazisme en Allemagne, qui produisent le communisme en Union soviétique, qui produisent le fascisme en Italie, qui produisent la guerre d'Espagne, etc. etc. Bon. Donc à cette époque-là, il y a un foisonnement intellectuel de réflexion sur qu'est-ce que ça va être. C'est là qu'on va voir naître la question du corporatisme. Par exemple, le corporatisme qui va se développer sous Vichy. C'est là qu'on va voir se développer le planisme, tel qu'on va le voir en URSS. Ça va être là qu'on va voir se développer quelque chose qui est le néolibéralisme, qui est celui qui va l'emporter, mais pas à ce moment-là. À l'époque, vous avez une réflexion du renouvellement du libéralisme. Il y a des gens qui disent « bon, le libéralisme tel qu'il était, ça ne va pas. Il nous faut un libéralisme organisé par l'État. » Organisé par l'État, c'est-à-dire dont l'État serait le garant. Alors, pas un État qui intervient dans l'économie, mais un État gendarme qui fixe les règles du jeu économique, qui précisément, on le dit à l'époque, définit un code de la route des échanges économiques et qui peut sanctionner. C'était l'idée qu'on va voir développée par Friedrich Hayek, etc. Ces gens-là, après la guerre, ils ont perdu intellectuellement. Pour une raison très simple, le patronat, je dirais, discrédité par la collaboration. C'est-à-dire que les forces sociales qui sont présentes à la libération, ce ne sont pas celles-là. On a un très fort mouvement communiste, il faut le rappeler, des mouvements issus de la résistance. Et c'est le moment, en France, où on va voir cet interventionnisme d'État se développer très fortement. C'est les nationalisations des secteurs qui avaient collaboré, notamment des minerais, de Renault, tout un tas de choses comme ça. Et c'est ce qui va donner, finalement, la forme de l'État français tel qu'on le connaît, tel qu'il se développe dans les années 50, 60, 70. Or, ces néolibéraux, qui ne vont pas arrêter leur travail, je dirais, vont reprendre du poil de la bête, si je puis dire, dans les années 50, 60 et 70, notamment parce que leurs idées vont être prises alors, par certaines fractions du patronat, qui revient dans le jeu, et aussi par des hauts fonctionnaires, notamment de la direction du budget, qui vont commencer à avoir en tête l'idée que finalement tout ça est très coûteux, que tout ceci pose un certain nombre de problèmes et qu'il faut faire des économies. Et c'est ce qu'on va voir par exemple avec la RCB, la rationalisation des choix budgétaires, inventée à la fin des années 60, qui est déjà une espèce de prodrome, si vous voulez, de l'idée qu'il faut réformer l'État. Ça, si vous voulez, c'est ce mouvement. Alors, la critique de l'État, elle prend d'autres formes, elle prend une forme de gauche dans les années 70. L'État, pour les anti-marxistes, l'État s'est vu comme le monstre bureaucratique. Il y a une convergence d'une critique néolibérale de l'État, une convergence et d'une critique de gauche de l'État dans les années 70. Je passe là-dessus. Mais ces néolibéraux, si vous voulez, reprennent véritablement un poids tout à fait considérable dans le champ politique, dans certaines fractions de l'élite d'État dans les années 80. Et ils vont être relayés par des mouvements internationaux qui les appuient. Ces mouvements internationaux, c'est la révolution thatchérienne en Grande-Bretagne à la fin des années 70. Donc Margaret Thatcher qui est élue sur un programme qui s'appelle Rolling Back the State, c'est-à-dire faire reculer l'État, qui va développer ce qu'on va appeler le New Public Management, c'est-à-dire une forme de nouvelle gestion publique qui va consister à faire maigrir les administrations d'État,